Pour moi, ces paroles sont devenues très grandes. Ce psaume 78, 78, ce sont des paroles très précieuses. Et je pense que ce psalmiste, il n'a pas parlé de lui-même, mais que poussé par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Verset 1, psaume 78, psaume 78. « Sois attentif, mon peuple, à mon enseignement, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » C'était toujours l'appel de Dieu à son peuple pour qu'il écoute ce qu'il avait à lui dire. Et nous avons déjà lu dans le prophète Ésaïe le verset 10, donc Ésaïe 55, verset 10. La parole de Dieu ne revient pas à vide, sans effet. Quand Dieu parle, la parole est quelque chose qui accomplit ce pourquoi il envoie. Dieu ne fait pas de paroles en l'air. Elles peuvent être très simples aux oreilles des hommes et peut-être même condamnables ou rejetables, mais elles restent vraies. Et elles s'accomplissent parce que la bouche de Dieu l'a prononcée. Et c'est ainsi que le Seigneur a parlé à son peuple ici. Prends garde, mon peuple, à mon enseignement. Je pense que si Dieu a parlé autrefois, il l'a fait aussi dans nos jours. Et si nous devrions faire attention à ce qu'il a dit, c'est bien à ces jours. Faire attention à ce qu'il a dit, car nous savons que le temps est très proche. Et comme nous l'avons déjà entendu, son retour, son avènement est proche. Au verset 3, il est écrit ensuite, verset 3, « Ce que nous avons entendu et ce que nous avons appris et ce que nos pères nous ont raconté. » En lisant ce verset, j'ai pensé directement à la parole qui est presque similaire à celle que Jean écrit dans sa lettre ici au saint. Dans 1 Jean 1, verset 1, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 1 Jean 1, verset 1, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie. » Verset 2, « Et la vie a été manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. » Verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. » Or, la communion avec nous est aussi la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Verset 4, « Et nous écrivons ceci afin que notre joie soit parfaite. » Et voici le message, verset 5, que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne nous attachons pas à la vérité. Nous ne nous tenons pas à la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous prétendons ne pas avoir de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Verset 10. Si nous prétendons ne pas avoir péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est ce qu'écrit Jean. Et en particulier, les paroles comme il l'a dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et en ce qui nous concerne, ce que nous avons peut-être touché. Ici, ce psalmiste dit, dans le psalme 178, ou même 78, verset 3, ce que nous avons entendu et expérimenté et que nos pères nous ont raconté. Au verset 4, nous ne le cacherons pas à leurs enfants, mais nous l'annoncerons à la génération future. Frères et sœurs, telle avait bien été la volonté de Dieu, que les puissantes actions de Dieu ne soient pas mises sous le boisseau, mais qu'elles soient propagées, proclamées. Ils devaient le dire à leurs enfants, à leurs descendants. Ils devaient parler de ce qui leur avait été accordé par Dieu et de ce qui était important. Et ici aussi, Jean, il fait la même chose. Il écrit à propos des choses et il dit ce qui leur a été accordé de la part de Dieu. Jean fait la même chose. Il ne le garde pas pour lui, il le transmet. Je pense que cela a été transmis jusqu'à nos jours. Et ces choses sont là pour nous. Ces choses sont là pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes si reconnaissants à Dieu que nous soyons fortifiés par sa parole ce matin encore en levant les yeux vers lui. Oui, c'est cela. Au verset 7, psaume 78, psaume 78, verset 7. Qu'ils mettent leur confiance en Dieu et n'oublient pas les œuvres de Dieu. Frères et sœurs, je pense que si nous regardons dans nos jours, nous ne pouvons que dire, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu et nous ne devons pas oublier ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore, car je crois qu'il est encore à l'œuvre. Le croyons-nous? Bien sûr, il est encore à l'œuvre. Mais nous devons aussi voir ce qu'il a fait dans le temps passé et nous devons voir ce qu'il fait de nos jours. Car il n'a pas cessé d'agir. Mais c'est aussi sa volonté que nous parlions de ces choses, de ces grandes actions qu'il a faites à tous ceux qui sont peut-être encore à l'écart, qui sont encore plus éloignés. Et nous sommes donc heureux et reconnaissants de pouvoir entendre de telles paroles ce matin par grâce. N'est-ce pas merveilleux? Verset 2. J'ouvrirai ma bouche. Ça, c'est le psaume 78, encore le verset 2. J'ouvrirai ma bouche pour parler en proverbe. J'annoncerai des énigmes dès les temps anciens. Oui, c'est une chose merveilleuse. Et nous savons que notre Seigneur est venu et a dit beaucoup de choses en proverbe. Mais vous savez, aux siens, il a dit toute la vérité. Aux autres, il a peut-être parlé en parabole ou en proverbe. Mais aux siens, il a révélé les choses et leur a fait savoir comment elles seraient. Puisse-t-il continuer à être avec nous? Nous, toi et moi, nous voulons mettre notre confiance en lui. Il est devenu pour nous tout en tout. Tout en tout. Qu'il continue à nous bénir. Je voudrais demander à Frère Franck de nous adresser encore quelques paroles. S'il te plaît, Frère Franck. Loué et remercié soit le Seigneur. Nous avons entendu beaucoup de paroles de Dieu. Un très long psaume dès l'introduction qui en dit long et qui décrit l'histoire d'Israël depuis son commencement jusqu'à David, avec ses hauts et ses bas, avec la foi et l'incrédulité, avec tout ce qui s'est passé. D'une part, l'échec continu des hommes et la fidélité continue de Dieu. Ces choses se trouvent toujours face à face. Et on ne peut que dire, celui qui sera dans la gloire, il y sera par grâce. Il y sera parce que Dieu a eu pitié de lui, l'a aimé, l'a fait sortir, l'a appelé à sortir et à devenir sa priorité. Et a fait de lui sa propriété. Et si toi et moi pouvons croire que nous ferons partie de cette foule, nous disons que Dieu nous a fait grâce et que nous serons là à cause de sa miséricorde. Là-bas, à cause de sa miséricorde. Maintenant, avant de résumer brièvement ce qui a été dit, je ne voudrais pas manquer de saluer très brièvement notre frère de Salzwedel en RDA et de lui souhaiter la bienvenue. Parmi nous, je suis allé le chercher tout à l'heure à la gare et il m'est venu à l'esprit que j'avais lu le nom de Salzwedel à de nombreuses reprises. Nous habitions tout près de la ligne de démarcation. Nous habitions tout près de là et pourtant, d'une certaine manière, bien qu'elle ne soit qu'à 6 kilomètres de la frontière, je suppose environ 5 ou 6 kilomètres, si je me souviens bien, il y avait quand même une frontière. Et nous étions de ce côté et les gens étaient de l'autre côté. Et quand je regarde en arrière aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi fallait-il être de ce côté pendant quelques kilomètres et puis la frontière passait déjà. La frontière passait déjà. Alors, quand je me rendais à l'école professionnelle, je me rendais assez souvent à la frontière pour voir, pour regarder de l'autre côté. La pensée m'est venue, cela peut être ainsi dans le royaume de Dieu. On peut être tout près de la frontière. La question est de savoir de quel côté nous nous tenons, de quel côté nous marchons, de quel côté nous nous trouvons. Et que le Seigneur nous fasse la grâce de toujours vouloir être du bon côté. La frontière passe, nous le savons. Ce n'est pas nous qui l'avons tracé, peut-être est-ce Dieu qui l'a tracé. L'important, c'est que nous soyons du bon côté de la frontière. Ce n'est ni l'Est ni l'Ouest, mais c'est ce que Dieu a délimité. Les pensées de Matthieu 13 me sont venues en entendant tout cela, aussi du psaume 78. Et puis de ce qui a été lu par la suite, le psaume 78. Il est dit ici, en relation avec Matthieu 13 au verset 10. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Verset 11, il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à ceux-là, il ne leur a pas été donné. » Verset 13, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. » Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils ne voient pas de leurs yeux et qu'ils n'entendent pas de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent pas. Le verset 14, ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe qui dit, vous entendrez toujours et vous ne comprendrez pas et vous verrez toujours et vous ne reconnaîtrez pas. Verset 15, car le cœur de ce peuple s'est émoussé, leurs oreilles se sont assourdies et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent pour que je les guérisse. Verset 16, mais vos yeux sont bénis parce qu'ils voient et vos oreilles par ce qu'elles entendent. Verset 17, car je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré ardemment voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Et auraient voulu entendre ce que vous entendez et n'ont pas été capables de l'entendre. Totalement incompréhensible pour nous. Et pourtant, la prophétie de l'Écriture devait s'accomplir. Prophétie que Dieu le Seigneur, avait prononcée par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Et de cette manière inexplicable, elle s'est accomplie. Le Seigneur a enveloppé la signification et le sens de son discours dans des paraboles. Ils entendaient les paraboles, le sens leur restait caché. C'est ainsi que devait s'accomplir la parole de l'Écriture ou la prophétie du prophète Ésaïe, selon laquelle ils ne verraient pas de leurs yeux, n'entendraient pas de leurs oreilles et ne percevraient pas de leur cœur. Nous dirions presque, oui, n'est-il pas injuste que Dieu cache délibérément quelque chose aux gens pour qu'ils ne le voient pas? Ne laissez pas du tout cette pensée vous pénétrer le cœur. Dieu sait à qui il cache une chose et à qui il doit la révéler. Dieu sait toutes choses. Nous ne pouvons pas le juger. Nous ne pouvons même pas nous juger les uns les autres. Il est à la fois juge et législateur, donc celui qui donne la loi. Il sait exactement ce qu'il fait. Il est écrit ici, celui qui pense avoir quelque chose se verra encore enlever ce qu'il a. Pour nous, c'est à nouveau incompréhensible que celui qui a reçu si peu se voit encore retirer ce qu'il a reçu. Mais à celui qui a, il sera donné afin qu'il ait l'abondance. Et je pense qu'aujourd'hui, en raison de la remarque, ou plutôt, il y a tant de remarques, si nous voulions écouter ou entrer en matière, nous pourrions perdre l'ouïe et la vue. Mais nous avons en effet prêté l'oreille à ce que l'Esprit dit aux églises. Nous nous sommes préparés à prêter l'oreille aux paroles du Seigneur. On ne peut pas écouter d'une oreille ce que Dieu dit et de l'autre ce que les hommes disent. C'est pas possible. On est alors déchiré intérieurement et on ne sait plus où l'on est, où l'on en est. Mais si l'on prête les deux oreilles d'une pleine écoute au Seigneur, alors nous devons dire, Dieu nous a confié beaucoup de choses et il est dit, à celui qui a, il sera encore ajouté. Mais à celui qui croit avoir, on enlèvera encore ce qu'il croit avoir. Et je ne voudrais en aucun cas faire partie de cela, car ce serait grave. Si un homme pense avoir quelque chose de Dieu et qu'il ne l'a pas, et que même s'il avait quelque chose, cela lui serait encore enlevé. Oh, quelle tristesse! Il y a là une grande leçon. Dans le royaume de Dieu, personne ne peut se remplir la bouche. Nous dépendons tous de la grâce de notre Dieu, avec tout, du début à la fin. Nous avons été sauvés par la grâce. C'est par grâce, comme nous l'avons entendu hier, que Noé avait construit l'arche, qu'il avait trouvé grâce devant Dieu. Qui étaient tous ces gens à qui Dieu a fait grâce? Des gens à qui il a parlé, des gens comme toi et moi. Et nous l'avons souligné hier soir. Beaucoup ne savaient que ce que Dieu leur avait dit, et ce en un temps donné. Nous, à notre époque, par la grâce de Dieu, nous avons une vision globale. Je ne sais pas si Noé pouvait savoir ce que Dieu avait dit à Abraham ou inversement, que l'un ait vécu avant ou après, chacun ne savait peut-être que ce que Dieu lui avait dit ou en grande partie, ou en grande partie seulement ce que Dieu lui avait dit. Ensuite, tout a été réuni dans un Ancien Testament et nous constatons que les hommes ne pouvaient plus rien faire de ce que Dieu avait dit à Abraham. Ils ont eu leurs propres interprétations, leurs propres compréhensions à ce sujet. Il en va de même dans le Nouveau Testament. Non pas que les gens n'en aient pas entendu parler, mais ils se font leurs propres pensées à ce sujet. Dieu doit me parler et te parler par sa parole et par son esprit avant que nous puissions le comprendre correctement. Et je crois que nous pouvons dire qu'il nous a parlé en ces jours et pas en parabole, mais librement et ouvertement. Et ce qui est encore voilé est de toute façon remis à Dieu. C'est déjà écrit dans Deutéronome, n'est-ce pas? Nous avons souvent cité ce passage. Deutéronome 29, verset 28. Ce qui est encore caché est au Seigneur, notre Dieu, mais ce qui est déjà manifesté est pour nous et pour nos enfants. Il en est ainsi, il en sera toujours ainsi. Dans ce qui est caché, aucun de nous ne peut entrer. Dieu doit le révéler, il doit nous le communiquer par grâce. Ensuite, j'ai aussi remarqué dans la parole de l'Épître de Jean ce qui est nécessaire pour être en communion les uns avec les autres, pour être en communion avec Dieu. 1 Jean 1, verset 6, c'était « Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne nous tenons pas à la vérité. » La vérité n'est pas ce que toi et moi disons. La vérité est ce que Dieu a dit. La parole de Dieu est la vérité. Oh, combien de fois on entendons des gens dire « Oui, je vais te dire la vérité. » Et ils disent toutes sortes de choses sauf la vérité. Ils disent des choses selon leur compréhension et pensent que c'est la vérité. Mais la vérité, au sens où Dieu l'entend ici, c'est vraiment la parole de Dieu tout de seul. Ce n'est pas ce que toi et moi avons à dire, mais ce que Dieu lui-même a dit, c'est ça qui est la vérité. Et c'est pourquoi il est aussi écrit, Jean 17, 17, « Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. » Non pas ce que nous avons parfois à dire, mais ce que Dieu a déjà dit. Il est écrit plus loin, au verset 7, 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. N'est-ce pas merveilleux? Il est écrit ailleurs, celui qui marche dans la lumière ne se heurte pas. Son chemin est éclairé. Il voit où il va. Et s'il y a un obstacle, il ne sera pas maladroit et ne passera pas par-dessus l'obstacle ou ne tombera pas par-dessus. La lumière lui indique et lui dit, il y a un obstacle. Écarte-toi de son chemin ou d'une manière ou d'une autre, l'homme sera éclairé sur ce qu'il doit faire. Mais celui qui marche dans les ténèbres manque de trébucher sur lui-même. Oui, il y a des gens qui mettent une jambe derrière l'autre et tombent sur leur propre jambe. Cela existe aussi. Et quand on marche dans les ténèbres, on trébuche effectivement sur tout et n'importe quoi. Et puis, on rejette la faute sur tout le monde. Non, la faute n'incombe à personne d'autre. Celui qui marche dans la lumière voit le chemin avec Dieu. Il ne se cogne pas, il ne trébuche pas. Il lève les yeux vers son Dieu et sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur le chemin que nous devons suivre. Le verset 7, 1 Jean 1. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Ici, Golgotha est mis en avant. Et ensuite, il est dit, verset 8, « Si nous prétendons ne pas avoir de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Cela ressemble presque à une contradiction, mais ce n'en est pas une. Deux choses sont vraies. Il est vrai que tout homme est né dans le péché. Nous ne sommes pas devenus pécheurs parce que nous avons fait ceci ou cela. Nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes entrés dans ce monde en tant que pécheurs. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché se ment donc à lui-même ou présente même Dieu comme un menteur. Mais celui qui est devenu croyant et qui ne peut pas confesser de tout cœur que Dieu a transféré tous nos péchés sur l'agneau de Dieu. Et comme l'a dit Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui qui ne peut pas faire ça n'a pas compris la rédemption. D'une part, l'aveu que nous sommes nés dans le péché et que nous avons été considérés comme tels aux yeux de Dieu. D'autre part, que l'agneau de Dieu a emporté et expié nos fautes et nos péchés, et que nous avons été rendus libres. Et c'est pourquoi cette parole du Seigneur ici, cela doit être vu sous le bon angle. Et tout est alors en ordre. Revenant à la seule parole de l'Épître aux Romains, nous devons certainement conclure par une parole très glorieuse ici. Très glorieuse ici. Il est déjà écrit auparavant, Romains 15, verset 1. Nous, les forts, avons le devoir de porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas penser à nous-mêmes avec complaisance. Si nous pensons que quelqu'un est faible, nous n'avons pas le devoir de nous regarder avec complaisance et de penser nous-mêmes et de nous penser nous-mêmes forts, mais nous avons même le devoir, selon cette parole de Dieu, de porter l'obligation de porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas aussi forts que nous et de ne pas nous regarder avec complaisance ou de penser ainsi à nous-mêmes. Il y a une grande différence entre le fait que le bon plaisir de Dieu, la faveur de Dieu repose sur un homme et le fait que nous nous trouvions nous-mêmes agréables. Nous nous regardions nous-mêmes avec complaisance. C'est une différence à l'échelle du ciel. L'un est une tromperie humaine, l'autre est la grâce de Dieu qui s'est abattue sur ta vie et la mienne. Et nous pouvons faire le tri là où nous avons pris notre position. Il n'est pas nécessaire d'être mathématicien pour pouvoir en juger d'une manière ou d'une autre. Et il n'est pas non plus nécessaire d'avoir trop de choses ici en haut dans la tête, mais simplement de constater quelle disposition, quel sentiment, quelle pensée est vraiment en toi et en moi. Rien de plus. C'est déjà suffisant. Nous n'avons pas besoin de demander, oui, qu'est-ce que tu crois que je suis en réalité et comment je me présente devant Dieu. Non. Dans quel état je suis devant Dieu. Non. Lorsque nous lisons la parole de Dieu ici, relisons donc ce verset, verset 1, verset 15, verset 1, Romains 15, pardon. Nous, les forts, avons le devoir de porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas penser agréablement à nous-mêmes. On peut donc penser à ce que les hommes appellent faiblesse ou même au-delà et se regarder avec complaisance et mépriser l'autre au point de presque de presque réaliser la parole du Seigneur qui se référait à lui-même. Il était le plus méprisé des enfants des hommes. Et cela a frappé notre maître de plein fouet. Il était le plus fêté, le plus grand. Toute l'affluence des milliers, des milliers et des milliers était là. Et soudain, le plus honni, le plus méprisé, celui que les hommes évitent, celui que l'on a rejeté. Les deux, avec le même manteau. Une fois, le grand Hosanna soit à celui qui vient au nom du Seigneur, et ensuite crucifiez-le. Et vous savez que je l'ai dit ici, lorsque frère Branham en a parlé et a dit « Ne l'oubliez pas, ce sont les mêmes personnes qui ont crié « Hosanna, Hosanna » qui ont ensuite crié « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Dans mon cœur, je pensais « Homme de Dieu, je ne te crois pas ». Il devait s'agir de deux groupes différents. L'un criait ici et l'autre cela. Aujourd'hui, les leçons m'ont communiqué tant de choses que je n'ai plus du tout besoin d'autres éclaircissements. Mais il faut parfois dans la vie personnelle, et je me demande effectivement, souvent, pourquoi un homme doit suivre certains chemins et voir s'accomplir dans son propre corps, dans son âme, dans son esprit, certaines paroles de Dieu sur lui et sur elle-même et les laisser passer des choses que l'on ne connaissait auparavant qu'en théorie et que l'on a soudain ressenti dans la pratique. Et je vous dis que la théorie et la pratique sont très éloignés l'un de l'autre. L'une est dans notre tête et l'autre est une chose que nous devons vivre personnellement. Ici, on continue à dire, au verset de Romains 15, non, que chacun de nous vive pour plaire à son prochain, pour son bien, pour son édification. Pour son édification. Verset 3, car Christ aussi n'a pas vécu pour se plaire à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Ici, il a fait tomber sur le Christ tous ceux qui ont insulté Dieu. Ils n'ont même pas pu le comprendre que leurs insultes sont tombées sur Christ. Mais c'est bien ce qui est écrit ici, le psaume 69, verset 10 est donné ici, le psaume 69, verset 10 est à nouveau cité ici et il fallait que cela s'accomplisse. Puis nous poursuivons la lecture, verset 4, Romains 15. Ainsi, tout ce qui a été écrit avant les temps a été écrit pour nous, pour notre instruction, afin que nous maintenions l'espérance par la persévérance et la consolation que l'Écriture nous donne. Comment donne-t-elle du réconfort? Pas seulement en parole, mais en nous montrant que Dieu nous a aidés dans toutes les situations, qu'il a montré une nouvelle voie dans les situations sans issue. Et quand je viens à l'assemblée de cette manière, je prends la résolution et je dis, tu dois tout simplement à tes frères et à tes sœurs de leur dire, tant que le Seigneur ne donnera pas de nouvelles instructions, ils te pardonneront, mais ils me laisseront assis et je ne parlerai tout simplement pas pendant ce temps. Je me suis très souvent promis de le faire, encore et encore. Mais ensuite, je réfléchis à tous les biens précieux que Dieu nous a accordés par grâce. Et si nous ne vivons pas ici en ce moment quelque chose qui bouleverse le monde, nous nous réjouissons de ce que Dieu a déjà donné et offert. Et comme Pierre l'a dit, c'est en répétant qu'il voulait tenir les esprits éveillés à tout ce que Dieu a dit par les saints prophètes et apôtres. Si nous n'avons rien d'autre à montrer, nous pouvons nous contenter pour le moment de nous réjouir de ce que Dieu a fait et de mettre toujours au centre de nos préoccupations ses discours, ses paroles, ses révélations, comme il a été dit dans le psaume, qu'elles devaient être annoncées aux générations futures. Dieu a fait de grandes choses. Parfois, frère Branham dit, je dois me retirer. Je dois rester silencieux pendant un certain temps. Et ensuite, je me manifesterai à nouveau. À un moment donné, il dit, je vais me laisser pousser une longue barbe et je vais devenir un guide touristique là-bas dans cette région à l'Alaska. Et si Dieu m'appelle, alors je serai immédiatement sur place. Mais il n'y est pas parvenu. Il a voulu le faire à plusieurs reprises. Mais il s'est retrouvé dans la même situation que le prophète Jérémie. Quand j'ai pris la résolution de ne plus parler, cela a brûlé comme un feu dans mes os et je n'ai pas pu m'empêcher de parler de ce que Dieu a fait. Jérémie 20, verset 9. Je me surprends en effet à être très, si vous saviez, c'est bien que vous ne sachiez pas tout. Vous en savez peut-être déjà trop, mais vous ne savez pas tout. Et c'est ainsi que sont certaines choses que l'on doit traverser. Et comme j'aimerais aller quelque part où personne ne me voit, où personne ne m'entend, et attendre de voir si Dieu a un ordre à me donner, une instruction. Et pourtant, je le décide si souvent et je ne peux pas le réaliser. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu. Je sais une chose. Ce n'est pas ma volonté qui sera faite, mais la sienne, car il ne s'agit pas de ma cause ou bien de ma chose ou bien de, mais il s'agit de l'œuvre de Dieu, de la chose de Dieu. Et avant de nous lancer dans telle ou telle chose, attendons et contemplons tranquillement les choses que Dieu nous a données et confiées. Et lorsque Dieu commencera à agir, lorsque la colonne de feu se lèvera, alors il sera encore temps pour nous de nous mettre en route et de suivre la colonne de feu pour voir ce que Dieu continuera à faire. Toute action personnelle sera de toute façon punie ce jour-là, car elles auraient été un obstacle à l'action de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Si l'activité humaine dans le royaume de Dieu n'était pas un obstacle pour Dieu, chacun pourrait faire ce qu'il veut. Mais parce que l'action humaine s'oppose à l'action de Dieu, elle est un obstacle. Nous devons attendre que Dieu fasse quelque chose, et c'est alors que cela est bien fait. Il est dit ici, au verset 7, Romains 15, « Accueillez-vous donc les uns les autres avec amour comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Comment est-ce que Christ nous a acceptés, toi et moi, comme nous étions à l'extérieur, à l'intérieur et tout le reste? Pas un seul ne peut ajouter une coudée à sa taille ou enfin en largeur. Chacun peut régler cela lui-même. Mais vous savez ce que je veux dire. La parole de Dieu le dit clairement. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit à sa vie, pas même une coudée. Tout a déjà été arrangé par Dieu. Dieu nous a acceptés en Christ tel que nous étions. Et c'est ainsi que nous devons nous accepter les uns les autres par Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous voulons d'abord examiner et corriger tout le monde, nous n'aurons plus le temps de penser à nous-mêmes, n'est-ce pas? Et nous ne parviendrons pas à être prêts nous-mêmes, quand le Seigneur viendra, accueillons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a accueillis en Christ. Et alors, tout ira bien. Peut-être que je vous pourrais encore rapidement citer ce psaume 78 qui m'a particulièrement touché le cœur. C'est en effet l'une des pensées que je dois exprimer dans cette lettre séculaire, notamment en ce qui concerne ces mystères et le langage énigmatique du Seigneur lorsqu'il est dit ici au verset 1, « Sois attentif, mon peuple, à mon enseignement, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Et qu'est-ce qui vient ensuite? Puis viennent les proverbes, puis les énigmes. Et ils entendent et ne comprennent pas. Ils perçoivent et ne comprennent pas. Il est dit au verset 2, « J'ouvrirai ma bouche pour parler en proverbes. J'annoncerai des énigmes dès les temps anciens. » Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Et il faut laisser ce qui est enveloppé d'énigmes jusqu'à ce que le temps soit venu où il plaira à Dieu lui-même de révéler et de faire connaître ce dont il s'agit. On ne peut pas se mettre à sonder ou à exposer les choses divines de sa propre initiative. Il n'y a qu'une chose à faire, attendre que le Saint-Esprit nous y conduise et qu'il plaise à Dieu de faire les choses lui-même, de les réaliser. Il n'y a pas d'autre moyen. Celui qui essaie d'interpréter certaines déclarations de Frère Branham devra constater qu'il a fait tellement de déclarations différentes sur le même sujet qu'il n'y a aucun sens à se fixer sur ceci ou cela, mais à attendre. Oui, il a dû agir ainsi pour que les hommes soient confondus avec leurs propres interprétations et qu'il reste finalement une semence de Dieu qui sera témoin de ce que Dieu fera à la fin du temps de grâce. Et nous pouvons attendre cela en toute confiance. Je ne suis plus du tout pressé. La hâte n'est que pour le salut de l'âme, le salut des âmes, salut des âmes. Hâte-toi de sauver ton âme. Et lorsque l'âme est sauvée, alors plus aucun homme n'a besoin de se presser, alors nous n'avons plus qu'à attendre, à marcher avec Dieu et à être disposés intérieurement à ce que Dieu veut offrir. Il est dit sur verset 7, psaume 78, psaume 78, verset 7, qu'ils mettent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les actes de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Ils devaient informer la postérité, instruire les enfants qui naîtraient d'eux et leur raconter qu'ils avaient mis leur confiance en Dieu et qu'ils n'avaient pas oublié les actes de Dieu. Oui, il a tout fait au milieu de leur camp, là où ils habitaient. Il a fait tomber la nourriture. Il a envoyé seulement un vent d'est et il a apporté tout ce dont ils avaient besoin. Il est dit ici au verset 25, « Ils mangèrent tous des aliments angéliques et il leur envoya des aliments de voyage pour les rassasier. » Au verset 26, « Il fit venir le vent d'est dans le ciel et par sa force, il fit venir le vent du sud. » Verset 27, « Il fit pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière et des oiseaux légers comme le sable de la mer. » Imaginez qu'au milieu de leur campement tombèrent non seulement la manne, mais aussi des oiseaux. Il y avait de la viande. Le plumage était encore là. Il pouvait le prendre frais et le préparer. Le plumage était encore là. Avec Dieu, tout est possible. Quand il dit, maintenant 1 million de ceci ou de cela doit naître l'instant d'après, c'est là. Et s'il dit que le vent le fasse descendre ici dans la couche, dans le camp, le vent d'est et le vent du sud arrivent, rassemblent la chose et la voilà qui tombe au bon endroit. Notre Dieu a toutes les possibilités qu'un homme ne peut imaginer et ne peut pas imaginer. Nous ne pouvons pas du tout comprendre et mesurer tout ce qu'il est capable de faire. Exprimons-lui à nouveau notre confiance. Et qu'il ne nous arrive pas ce qui est écrit ici. Mais ils lui ont menti de leur bouche et lui ont menti de leur langue. Verset 37, car leur cœur ne s'est pas attaché à lui. Ils n'ont pas été fidèles à son alliance. Verset 37, que cette parole ne s'accomplisse en aucun de nous, en aucun de ceux qui aiment Dieu. Que nous ne disions pas quelque chose de notre bouche et que nous ne proférions pas un mensonge avec notre langue. Si nous disons, oh Dieu, je t'aime, que ce soit vrai. Et savez-vous, quand est-ce que c'est vrai? C'est vrai quand cela correspond à la parole. Si tu veux aimer Dieu, que tu ne vois pas, comment peux-tu le faire? Comment peux-tu le faire? Si tu n'aimes pas ton frère que tu peux voir. 1 Jean 4, verset 20. Un homme peut 100 fois, il peut dire à genoux, en se tenant de vous, en se couchant. Il peut aussi se tenir la tête et dire, oh Dieu, je t'aime. Et s'il n'aime pas son frère, il est un menteur. Et sa langue l'a trompé, son cœur l'a dupé. L'a dupé. Il ne sait pas en fait ce qu'il dit. Il se ment à lui-même. Personne ne peut mentir à Dieu, car Dieu ne voit pas seulement les paroles qu'il entend, mais aussi les pensées des cœurs. Verset 36. Mais ils lui ont menti de leur bouche et lui ont menti de leur langue. Verset 37. Car leur cœur ne s'est pas attaché à lui et ils n'ont pas été fidèles à son alliance. Dieu a conclu une alliance avec nous sur la croix à Golgotha. Tout homme qui a été entraîné dans cette alliance ne peut que revendiquer cette conclusion divine de l'alliance. Donc, ne peut que revendiquer pour lui cette conclusion divine de l'alliance. Et nous devons dire, c'est là qu'est le corps du Seigneur. Tous les membres de son corps y ont été rachetés. Le sang a été versé pour plusieurs. Et quiconque est un membre du corps de Jésus-Christ discernera le corps du Seigneur et se considérera comme membre en disant, Seigneur, je peux, par grâce, faire partie de l'Église des premiers-nés, de ceux qui ont été appelés, élus avant la fondation du monde. Ceux qui ont été appelés à sortir avant la fondation du monde. Celui qui ne discerne pas le corps du Seigneur fera ses propres choix, prendra des propres décisions. Celui qui appartient au corps du Seigneur discernera le corps du Seigneur et se verra et se considérera lui-même comme membre de ce corps. Et pas seulement lui-même, mais aussi chaque frère et chaque sœur comme membre du corps de Jésus-Christ par grâce. Il considérera chaque frère et sœur ainsi. Que Dieu me donne cela et qu'il nous le donne à tous par grâce. Et puis, vous le savez, par Salomon, Dieu a donné un seul exemple dans l'Ancien Testament. Il s'agissait tout de même là-bas des deux enfants de ces femmes. Et qu'est-ce que la sagesse divine y a révélé? Mais le fait que la femme à qui l'enfant n'appartenait pas, elle a dit, partage-le, divise-le, coupe-le et personne n'en profitera. Et la femme qui avait donné naissance à l'enfant, portée sous le cœur, elle a dit non, ne le fais pas, laisse-le vivre. C'était la mère, c'était la sagesse divine qui s'est manifestée. Vous savez, si nous sommes l'Église du Seigneur et que des croyants ou des gens naissent ou bien sont nés, qui dit partage, diviser? Non, les gens, si quelqu'un dit ça, on n'a pas besoin de demander. La chose parle d'elle-même, parle pour elle-même. Ils ne l'ont pas porté sous leur cœur. Ils n'ont pas assisté à sa naissance. Ils n'ont pas subi les douleurs de l'enfantement. Que dit Paul? Vous avez 1000 maîtres, mais pas de père, mais peu de père en Christ. Et il dit, une fois de plus, je vous enfante avec douleur. Galates 4, verset 19. Celui qui n'est pas né avec l'Église, qui n'a pas subi les douleurs de l'enfantement, qui n'a pas compati avec tous ceux qui se sont ajoutés, qui sont nés dans le royaume de Dieu, ah, il peut facilement diviser de tous les côtés. Selon la devise, tout le monde n'a pas sa part du gâteau. Mais celui qui est né avec, celui qui est porté sous le cœur avec lui, c'est différent. Il ne partagera pas, il dira, il ne divisera pas, il dira, laissez tout ensemble, laissez tout ensemble. Comprenez-vous le sens des choses que nous devons discerner le corps du Seigneur? Cette femme savait discerner et savait, j'ai porté l'enfant sous mon cœur, que la femme l'ait, si seulement l'enfant reste en vie, qu'elle puisse le prendre. C'est là que la sagesse divine s'est manifestée. Oh, je vous le dis, celui qui porte le royaume de Dieu sur son cœur, qui est avec, qui est dans le royaume de Dieu et qui y a part, il ne peut pas traiter les choses à la légère. Il ne peut pas traiter les choses à la légère. Pour lui, c'est une affaire entre la vie et la mort. Et il dit non, ne divisez pas. Laissez les choses tout entier ensemble, car je les ai portées sous mon cœur. Oh, que Dieu veuille nous aider à porter vraiment dans notre cœur, par grâce, cet amour intime opéré par l'Esprit, cet amour profond opéré par l'Esprit. Que ce soit notre souhait et notre prière à tous. Amen. Levons-nous pour prier. Seigneur, nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour ta grâce qui nous a porté jusqu'à cette heure et jusqu'à cet instant. Seigneur, nous t'apportons aussi les requêtes de Sœur Bock du sud de l'Allemagne, que tu puisses aider, que tu puisses intervenir au Seigneur. Seigneur, nous savons que tu sais ce qui est nécessaire au Dieu, et c'est pourquoi nous levons les yeux vers toi en ce moment, Seigneur, et te prions, Seigneur. Aide, Seigneur, sauve, Seigneur, délivre, Seigneur, bénis, ô Dieu, tu sais ce qui est nécessaire. À cause de ton saint nom, loué sois-tu, Seigneur, également pour cette heure de grâce, pour la bénédiction que nous avons pu recevoir par grâce. Alléluia. Continue d'être avec nous. C'est notre prière profonde au nom de Jésus. Amen.